Je vous propose d'enchaîner parce que je vois le temps passer très vite et qu'on ait plutôt un débat général ensuite. Clotilde Bréau, président du CNLRQ et aussi représentante du mouvement de l'économie solidaire. Je vous laisse la parole.
Bien, bonjour tout le monde et je suis contente de parler après monsieur l'adjoint au maire de Grenoble puisque la régie de quartier de Grenoble est tout à fait exemplaire dans ce que peut-être doit être ce qu'est une régie. Alors bon, le réseau des régies, pour ceux qui ne le sauraient pas, parce qu'on en parle déjà beaucoup, c'est donc 140 régies, 6 à 8 000 salariés en insertion, enfin, et plus de 2 500 bénévoles qui apportent leur contribution. Le régie, je vous fais juste un petit rappel, comment on peut caractériser une régie. C'est d'abord un territoire d'ancrage qui a besoin d'une régie de quartier, c'est ça. C'est pas dans un territoire riche, mais dans un territoire qui a besoin d'une régie de quartier. C'est un espace de solidarité et de cohésion sociale, et c'est un bassin de proximité dans lequel les acteurs se reconnaissent. Alors la très grande majorité des territoires de régie sont inclus dans la politique, dans la géographie de la politique de la ville, bien sûr. La très grande majorité. Bon, on a bien maintenant des régies en territoires ruraux, et certains territoires ruraux sont très proches d'une grande pauvreté. Voilà. Ensuite, la gouvernance d'une régie, et vous l'avez un peu évoqué, la gouvernance d'une régie, elle est partagée. Elle est partagée entre les élus, les représentants des collectivités territoriales, un ou plusieurs bailleurs, et bien sûr les habitants du territoire et les associations qui travaillent à un titre ou à un autre dans ce territoire. Et chacun dans son rôle partage la responsabilité de la gestion urbaine du territoire dans toutes ses composantes. Vous avez évoqué la ressourcerie, il y avait eu d'autres expériences très intéressantes à Grenoble, des correspondants de parking avec la ville, je pense que vous êtes au courant. Et donc en fait, toutes ces initiatives, elles sont toujours portées par un comité de pilotage dans lequel intervient les élus, les bailleurs et les représentants des habitants. C'est ça la gouvernance d'une régie. Donc la mission principale d'une régie, bien sûr, c'est une mission d'utilité sociale, en ce sens que les activités développées dans une régie doivent répondre à des besoins des habitants qui sont non pris en charge ou insuffisamment pris en charge. Elles offrent des emplois et un parcours de positionnement ou de repositionnement professionnel à des personnes, à des habitants du territoire qui en ont le plus besoin. Et enfin, elle contribue à créer et à recréer des liens sociaux de proximité. Le grand mot d'une régie, c'est bien la proximité relationnelle entre les acteurs de la vie de la cité. Alors, bien sûr, les régies ont une ambition bien plus grande, puisque on a une ambition, c'est que la mission d'une régie est bien d'utilité sociétale. Maintenant, j'arrive à manier les deux, sociale et sociétale. Et ensuite, elle a pour visée, bien sûr, de mettre en mouvement une transformation des rapports sociaux vers plus d'équité. Donc on a un vrai projet, les régies sont vraiment dans un projet politique au sens de la vie de la cité. Voilà. Alors, la place centrale qu'occupent les habitants au cœur du projet politique des régies leur permet d'être un acteur citoyen de leur territoire de vie. Alors, quels sont les moyens mis en œuvre par le comité national qui regroupe l'ensemble des régies? Alors, moi, je ne dirais pas mesurer, parce que pour être d'origine scientifique et matheuse, pour moi, la mesure, c'est quantifier. Et quantifier l'utilité sociale, certes, il y a certainement des dimensions qu'on peut quantifier, mais pas toutes, surtout pas. Mais enfin, pour apprécier l'impact effectif de la mission d'une régie sur son territoire, ça c'est tout à fait légitime et important de pouvoir le réaliser. Alors le principe fondamental, on va dire la pierre angulaire de l'élaboration des moyens qu'on a pu mettre en place depuis l'existence du comité national, c'est-à-dire 88, se repose sur la co-construction. Alors c'est un grand mot qui a été utilisé ce matin, mais que on a, qui est vraiment un des principes fondamentaux de toutes nos démarches. C'est la co-construction par les acteurs eux-mêmes, afin de partager une connaissance de leur activité, de l'impact de leur activité, mais une connaissance qui soit commune à tous les acteurs. Alors, les différentes démarches, on ne va pas les énumérer toutes. Bon, d'abord, le premier, c'est le label. Alors, le label, pourquoi un label des régies de quartier? Eh bien, je vous fais un petit point d'histoire. J'espère ne pas être trop longue, Laurent. Le point d'histoire, c'est que, le dispositif ou une régie de quartier, c'est lié au développement de la politique de la ville depuis les années, même avant 81, puisque l'Almagar, c'est avant 81. Mais simplement, pour aller très vite, en 90, les assises de la politique de la ville à Bron, Michel Rocard, Premier ministre, installe Michel Delbarre comme ministre de la ville. Et dans son discours, Rocard dit, voilà, il y a 400 quartiers difficiles, on va faire 400 régies de quartier. À l'époque, elles étaient une vingtaine de régies déjà, dont Grenoble, déjà, bien sûr. Et elles étaient plutôt animées et dirigées par des directeurs militants. Il y avait bien sûr des présidents bénévoles, entre autres le président de Grenoble qui était très actif. Vous voyez, j'ai beaucoup de références avec Grenoble. Et des directeurs et des présidents militants et qui ont tout de suite senti le danger. Pour eux, c'était un danger, c'est de devenir un dispositif public. Donc, ils se sont empressés de rédiger une charte, de faire une charte adoptée à l'Assemblée Générale et de déposer le label à l'INPI. Ce qui fait que le label appartient aux régies de quartier. Le comité national en est le garant, l'organe, qui, là, c'est une association qui regroupe les régies et qui en est le garant et le garant du respect. Et c'est très fondateur parce que ça permet d'instaurer les relations des régies avec la puissance publique, qu'elles soient les collectivités territoriales de tout poil, ou bien l'État dans un mode de relation de partenariat. Et ça, on y tient beaucoup. Et on dit souvent que c'est une mise en tension entre les intérêts des habitants et les intérêts des politiques. Une mise en tension, ça veut bien dire qu'il n'y a pas toujours consensus. Hein. Mais la vie de la cité ne peut se faire qu'à partir de cette gestion commune. Voilà. Et donc, en fait, on a bien sûr un pied dans l'IAE, puisqu'on peut, avec la loi de 98, bénéficier de pratiquement tous les dispositifs de l'IAE dans les clous de la loi, bien sûr. Mais on a un pied aussi dans un autre domaine. Et par exemple, on se reconnaît complètement et dans le champ de l'économie sociale et solidaire, bien sûr. Alors, donc le label. Ensuite, dans le réseau, il y a une démarche de progrès qui est quelque chose de comparable à une démarche qualité que le comité national offre aux régies. Bon, je vais passer un peu vite sur les dispositifs. C'est bien sûr de la co-construction et il y a toujours, bien sûr, un accompagnement méthodologique pour que la démarche puisse se réaliser dans chacune des structures. Ensuite, alors il y a une autre, on peut en parler longtemps de cette démarche de progrès ou de la procédure de labellisation, mais un autre aspect qui nous tient beaucoup à cœur en ce moment, et ça on partage un peu les préoccupations de nos collègues des autres réseaux de l'IAE, c'est la question de la gestion économique des régies et de l'affichage hein, des résultats économiques, de la performance. On nous parle de performance. Alors, on a dans le réseau, on a pris le parti, comme on fait souvent, d'asseoir notre modèle économique sur notre projet politique. C'est-à-dire qu'au fond, alors on a sorti le modèle, ça y est, c'est-à-dire qu'au fond, on a un souci de transparence et un souci de transparence, mais vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis, entre autres et en particulier, de nos partenaires, qu'ils soient nos partenaires sociaux ou les partenaires économiques. Les partenaires sociaux, comme les conseils généraux, par exemple, avec l'appui du RSA, l'accompagnement social, etc. Ou bien économique, les bailleurs. Et les bailleurs, ils sont présidés souvent par des élus politiques. Ils ont une batterie de techniciens qui ont besoin de savoir, eux, où va leur argent et où va leur financement. Et donc, on a mis en place un modèle économique qui est qui est un outil qui est à la fois une mise en lumière du projet politique, c'est-à-dire de la territorialisation de la régie, de sa gouvernance, de sa capacité en matière d'insertion des publics à insérer, et aussi, bien sûr, de la bonne rigueur de sa gestion financière. Voilà. Ensuite, bon, je peux parler beaucoup. Oui, simplement les difficultés.
Plus trop.
Oui. Les difficultés, entre autres, on dirait, vis-à-vis des collectivités territoriales. Les difficultés, c'est que nous rencontrons souvent une grande méconnaissance du projet global des régies. C'est difficile de comprendre que la mission essentielle d'une régie n'est pas seulement l'insertion des publics et la mise au travail des publics avec une efficacité que l'on peut avoir. C'est donc aussi, on va dire, une difficulté en ce moment. On parle des difficultés actuelles. C'est aussi une grande difficulté d'accès à la commande publique. Il y a toute la batterie des clauses sociales. Vous le savez tous, on se retrouve devant d'abord une réduction budgétaire, des maîtrises des coûts très importants. Et donc, en fait, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué et assez difficile de faire comprendre et de faire mettre en place, on va dire, les clauses sociales dans les marchés publics. Voilà. Donc, quelquefois aussi, on se retrouve avec des collectivités territoriales à l'initiative de la création d'une régie, dont l'objectif principal est peut-être un peu trop de créer seulement de l'emploi, qui est peut-être un peu trop seulement, de créer de l'emploi dans les quartiers difficiles. Mais quelquefois, cette volonté politique, elle s'use. Et là, c'est une vraie difficulté aussi, c'est qu'elle soit entretenue, cette volonté politique de soutenir des régies de quartier. Voilà.
Merci.
Ah, si. Non, oui. Correspondant de nuit. Juste une minute. Correspondant de nuit quand même, puisque il y a eu une question et que monsieur l'adjoint en a parlé. C'était bien sûr créé par une régie, mais je vous recommande, et si vous voulez le demander au comité national, nous avons il y a déjà 12 ans sorti un livret sur l'activité des correspondants de nuit, la déontologie avec laquelle on exerce l'activité des correspondants de nuit. Et évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, de professionnalisation surtout de l'activité et des personnes des correspondants de nuit. Et donc ce livret existe et ça sera fort intéressant, puisque vous avez rendez-vous avec l'équipe professionnelle, de caractériser les métiers. Mais je vous recommande vivement d'aller dans les quelques régies qui ont depuis longtemps un service de correspondant de nuit, parce que c'est tout à fait remarquable le travail le travail professionnel et des agents, des correspondants et de l'encadrement.
Nous avons des régies adhérentes chez nous.
Merci. C'est vrai qu'on voit, sans tirer de conclusion, mais on voit qu'avec le débat de l'utilité sociale, rapidement, il y a la question de la reconnaissance des métiers qui est présente, de référencer le métier. Et c'est devenu une manière récurrente dans vos différentes interventions. Bon.